de quoi tu parles?
Cause français.
Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire.
Hein? Ça, c'est à moi que tu parles, là? Oh, c'est à moi que tu parles. C'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec.
Malfaisance de Madame Michu.
Cause français. C'est un plaisir.
Madame Michu est une femme d'environ 65 ans, ayant un IMC supérieur à 80, ce qui dit quand même de l'état de décrépitude de cette femme, portant un fichu comme Madame Michu. Vous voyez, ça rime un petit peu. Probablement avec un poireau à l'angle de la commissure de la lèvre, avec un petit poil qui fait piquer quand elle fait. Quand elle embrasse ses petits neveux qui ne veulent pas l'embrasser.
Est-ce que Madame Michu a raison?
Très probablement.
Mais de quoi tu parles?
Moi aussi, vous aussi, ou plutôt nombre d'entre vous aussi, avez entendu parler de Madame Michu. Son existence est régulièrement rappelée, quoique de moins en moins, mais j'y reviendrai, par les médias, par les politiques, par les communicants, par les publicitaires.
Alors, Madame Michu, franchement, Madame Michu, je la connais de nom, hein. Bon, je pense qu'on la connaît tous de nom, mais Madame Michu, pour moi, personnellement, je la connais pas, et pour moi, c'est une femme plutôt âgée. Dans mon esprit, je la verrais un peu comme Madame Michel, qui a perdu son chat. Voilà. Bon, du coup, Madame Michel, elle ressemblerait plutôt à une femme un peu âgée, qui regarde par la fenêtre un peu aigrie, un peu commère, un peu qui parle fort, et un peu caractérielle, hein. On va pas se mentir, Madame Michu. Pour moi, Madame Michu, c'est pas une personne qu'on aime fréquenter. Hein. On passerait pas tous notre dimanche après-midi avec Madame Michu, mais bon, c'est important hein, de savoir être proche de ses voisins et voilà, d'être courtois. Donc, je pourrais faire l'effort de passer une après-midi avec Madame Michu, mais j'attendrai en retour que du coup, le jour où j'ai pas de sel ou il me manque un œuf pour faire une omelette. Faudrait qu'elle me dépanne, parce que franchement, passer une après-midi avec Madame Michu, c'est de l'ordre du don de soi. Dans mon esprit, en tout cas, c'est vraiment de l'ordre du don de soi.
On a presque tous un avis sur elle, et chacun sait très bien de qui on parle, même si, et c'est étonnant, les versions diffèrent. On l'entend, Madame Michu, c'est comme le serpent de mer, le vaisseau fantôme, le trou de la sécu, le coiffeur qui rase gratis ou le point G. À force d'en entendre parler, on est persuadé qu'elle existe. Mais personne ne sait réellement où elle est, cette Madame Michu, qui elle est vraiment.
Madame Michu, c'est pas la mère fouettarde ou une mégère du coin de la rue? Mon grand-père m'en parlait quand j'étais petit, mais pourquoi? Elle vendait des œufs, du pain au marché? Mich, c'est Mich.
D'autres même, quelque peu jaloux de la notoriété de Madame Michu, ou en quête de reconnaissance eux-mêmes, prétendent l'avoir bien connue.
C'est une femme agréable qui me rappelle de bons souvenirs, notamment lors de son enterrement. Parce que cette femme est décédée il y a déjà une vingtaine d'années. Ses obsèques étaient grandioses. Et je la regrette.
Vous l'avez bien connue, visiblement.
Oui, en tant que boomer, oui, je l'ai bien connue. Et c'est une femme qui m'a appris beaucoup de choses sur la vie, sur le sens des valeurs, sur les êtres et les choses, sur le regard qu'on peut porter sur la vie. Quelqu'un qu'on regrette, et qui est remplacé aujourd'hui par Cyril Hanouna.
Alors voilà, je me dis que la connaissance populaire, lorsqu'elle est à ce point partagée, ne peut pas se tromper. Il n'y a pas de fumée sans casser les œufs, il n'y a pas pire sourd que celui qui veut noyer son chien. On nous parle de Madame Michu, vous-même, parfois, pouvez en parler. On pense que le sujet est léger. C'est faux, c'est du lourd. Ça remonte à loin, Madame Michu, et c'est grave. Il faut vraiment savoir de quoi on parle quand on parle de Madame Michu, de quoi on vous parle quand on vous parle d'elle. Aussi, j'ai enquêté longuement pour savoir qui est cette Madame Michu. Qui est-elle? Où se trouve-t-elle? Que fait-elle? Que veut-elle? Quels sont ses réseaux? Vous allez comprendre pourquoi il ne faut plus parler de Madame Michu, car ça l'a fait exister. Parce qu'il faut tous qu'on arrête de parler d'elle, et donc de favoriser ses intrigues. Parce que Madame Michu, ce n'est pas du tout anodin. En vérité, quand on creuse, ça fait même peur. Au départ, on m'a dit que Madame Michu n'existait pas. On m'a dit, Madame Michu, c'est le nom générique de la commère, de la femme française moyenne, voire très moyenne. Figurez-vous que même Hervé Christiani, vous savez, il est libre max, avait des infos sur Madame Michu.
Elle promène son sourire au hasard des snack bars. Elle partage ses délires avec des gens bizarres. Elle s'habille tout en cuir pour danser tard le soir dans un bar de la ville où il y a souvent de la bagarre. Elle ravale les soupirs de sa vertu qui chavire.
Cette fille-là, vous savez, ma bonne Madame Michu.
Mais ce n'est pas possible que Madame Michu ne soit qu'une simple commère. J'en suis convaincu. Madame Michu sait trop de choses. Elle dit trop de choses. Les journalistes, les médias, les publicitaires, les gens du marketing nous rapportent ce que sait Madame Michu. Tout le monde sait des choses sur elle. Mais personne n'ose s'avouer que derrière un aspect pseudo-dérisoire couvre des dangers, que Madame Michu est en fait bien plus que cela. Trop de gens savent quelque chose, mais personne en réalité ne sait rien. Et donc, voilà notre grosse enquête. Je n'ai pas trouvé Madame Michu tout de suite. J'ai d'abord trouvé certains de ses ancêtres ou de sa famille, ce qui prouve bien qu'elle, en tout cas, qu'elle ne vient pas de nulle part. En fait, il faut remonter à 1870, avec l'histoire du tout premier Michu. Émile Zola, dans une nouvelle de son recueil « Les nouveaux contes à Ninon », paru en 1870, trace le portrait d'un certain le grand Michu. Zola a été journaliste, il a des sources, il recoupe ses infos. Il nous décrit le grand Michu, disant que c'est un grand gaillard qui a des poings énormes, il est très fort, mais très doux en réalité. Ses yeux sont gris, il a 18 ans et paraît comme taillé à coups de hache. Il a toujours faim, seul importe pour lui la quantité de nourriture. Dans le texte de Zola, le grand Michu prend à part le narrateur, qui est un élève de 4e, dans la cour de récréation pour lui demander d'être son complice dans une révolte au réfectoire. Les élèves redoutaient le grand Michu car son père avait un grand prestige. Il avait combattu contre le coup d'état du 2 décembre 1851. Les élèves se plaignent de la mauvaise qualité du repas au collège. Le grand Michu, quant à lui, aimait la cantine. Il manquait juste de nourriture car il était plus grand que les autres et mangeait donc plus. Le grand Michu a été nommé chef de la révolte des élèves. Il est solidaire et fait preuve de dévouement aux intérêts de la communauté. Les élèves décident de faire une grève de la faim jusqu'à ce que les repas de tous les jours soient améliorés. La révolte éclate, ils chantent la Marseillaise et à la fin, le grand Michu laisse partir ses camarades. Cependant, il dit « Vous m'avez joliment lâché ». L'histoire du grand Michu rapportée par Zola n'est pas anodine. Le fait que le grand Michu soit lâché par ceux qui l'a défendu est un tournant majeur qui va entraîner la famille, au travers des siècles, dans ce qui est peut-être une des plus hallucinantes conspirations de l'histoire. Je me suis dit, en cherchant toujours plus qui était et où était Madame Michu, qu'il y avait peut-être là, dans cet ancêtre, les germes de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et si Madame Michu avait poursuivi une sorte de tradition familiale de la subversion, de la sédition, de la rébellion? Mais désormais entièrement investi dans la vengeance du grand ancêtre, ce grand Michu, qui s'est estimé trahi. Oui, toute une descendance de Michu passée du côté obscur, menant en quelque sorte une contre-révolution secrète. Et oui, et si les Michu depuis toujours étaient une sorte de confrérie, de secte s'adonnant à la manipulation dans l'ombre, destinée à nous faire payer nos erreurs du passé. C'est Honoré de Balzac qui m'a définitivement mis sur cette piste dans son livre « Une ténébreuse affaire » qui fait partie de sa comédie humaine et a paru en 1841. C'est un ouvrage qui porte sur un épisode obscur de l'époque napoléonienne, alors que des aristocrates résistent à se ranger aux côtés de l'empereur et que Fouché veut faire disparaître les traces d'un complot royaliste avorté. Un complot, comme par hasard. Mais est-ce vraiment un hasard ? L'action se passe à Arcis-sur-Aube et le fidèle régisseur d'un domaine d'aristocrates, pourtant réputé jacobin, fait tout pour cacher qu'il préserve les biens de ses anciens maîtres, les Simeuses, guillotinés pendant la Révolution, les biens de ses anciens maîtres et de leurs héritiers. Ce régisseur est un intrigant, il dégouline de duplicité. Ce régisseur, tient donc, s'appelle Michu. Mais Michu se fait repérer, ça finit mal pour lui, c'était écrit. D'ailleurs, d'après Balzac, son cou très court appelle le coup près. À ce stade de mon enquête, j'ai compris qu'avec Madame Michu, j'avais affaire non pas à une simple Française ordinaire, mais donc bien une famille en marge de la société depuis des lustres, dont les objectifs étaient malfaisants. D'ailleurs, après la ténébreuse affaire de Balzac, les membres de la famille Michu, semble-t-il, vont s'escrimer sans cesse à brouiller les pistes. Et ils vont le faire avec un certain succès, d'ailleurs. Ils vont se faire discrets en se faisant fabriquer une image inoffensive. Ce qui est bien la preuve, encore une fois, qu'ils fomentent quelque chose. Ainsi, une veuve Michu apparaît en 1896 chez l'écrivain Alphonse Allais, dans ses œuvres Enthume. Rien de particulier, mais justement ce quasi-silence sur Madame Michu est si assourdissant que c'en est étrange. En 1901, Aristide Bruand, chansonnier et écrivain, interpelle Madame Michu dans son ouvrage « L'argot au XXe siècle ». Il cite une rencontre avec elle, il dit cela. « Allons, Madame Michu, une petite rinçonnette, ça vous fera descendre votre café. » Pourquoi Aristide Bruand, d'ordinaire prolixe, en dit-il si peu cette fois-là ? Craignait-il quelque chose de la part de Madame Michu, ou était-ce un message crypté qu'il lui envoyait ? On ne le saura jamais. Et curieusement aussi, personne n'a cherché de ce côté. J'ai trouvé d'autres tasses encore de la famille Michu dans une opérette, les Petites Michu, en trois actes, d'Albert Vanloo et Georges Duval, musique de André Messager, créée à Paris au Théâtre des Bouffes Parisiens, le 16 novembre 1897. L'histoire est faussement innocente et commence comme cela. En 1793, au moment où les autorités révolutionnaires s'apprêtent à arrêter le marquis d'Hésif, l'épouse de ce dernier perd la vie en donnant jour à une petite fille. Le marquis confie l'enfant aux époux Michu, dont la femme vient également d'accoucher d'une fille, avant de disparaître pour échapper à ses poursuivants. À quelque temps de là, le père Michu, qui est fromager, se charge de baigner les enfants. Il les met ensemble dans la baignoire, puis au moment de les rhabiller, est incapable de les distinguer l'une de l'autre. Les deux filles Michu, la fille d'ouvrier et celle de l'aristocrate, vont grandir en étant prises pour des jumelles. C'est au moment où elles doivent se marier, la vraie fille de fromager avec un aristocrate et la vraie fille d'aristocrate avec l'assistante du fromager, que l'on découvre leur vraie nature. Non mais quelle histoire !
Il vous a fait, sœur.
Monsieur, monsieur, pas de galanterie.
Et faut pas de coquetterie. Je parle très sincèrement. Il pourrait dire vraiment que vous êtes la plus jolie.
Mais c'est une histoire totalement idiote, qui nous dit, mine de rien et en filigrane, que chacun doit rester à sa place. Et qui nous dit même que le statut social est lié à la nature même pour des enfants élevés de façon similaire. La fille fromagère voudra se marier avec l'assistant fromager et la fille aristocrate avec l'aristocrate. C'est un raisonnement qui n'est pas seulement crétin, il est aussi toxique. Restez à votre place, bonnes gens, votre classe sociale est dans votre instinct, votre ADN même.
Elles sont ravissantes, jamais non jamais je l'ai.
deux jeunes filles plus charmantes que les deux petites Michu.
Elles se débrouillent
les Michu étaient-ils encore là, acteurs de cette fourbe comédie? Ce ne peut être une coïncidence. J'ai alors définitivement acquis mes certitudes sur les intentions de la famille Michu, que discrètement et sous des aspects légers et inoffensifs, les Michu étaient bien restés du côté des dominants, propagant des gestes contre-révolutionnaires. Les Michu sont des complotistes parfaits. Leur vengeance de l'ancêtre bafoué, le grand Michu, semble pour eux sans fin, sans rémission, sans rédemption. Car c'est loin d'être fini. En 1962, un publicitaire et homme de communication des années 70-80, que l'on présente comme brillant, du nom de Claude Marty, prétend être l'inventeur de Madame Michu. Dans son ouvrage « Les trompettes de la renommée », paru en 87, il écrit « Mon refus de la phrase creuse, de la malignité d'écriture et du truc publicitaire » m'a conduit en 1962 à inventer un personnage qui devait, pensais-je, s'inscrire dans la longue lignée des Candides qui, depuis des siècles, rappellent aux puissants qu'on ne comprend goutte à ce qu'ils racontent. Je voulais montrer en outre que l'on pouvait, sans bourse déliée, imposer une idée, une expression uniquement par le bouche à oreille, cet indispensable canal de la rumeur. Il me fallait un nom bien de chez nous qui évoque immédiatement le bon sens et l'origine modeste. Me revint alors en mémoire le titre d'une opérette de Messager, Les petites Michu. Je décidai donc de lancer Madame Michu et d'en faire l'arbitre suprême, le juge unique de ce qui était compréhensible ou non, acceptable ou inadmissible, clair ou obscur. Ça, c'est la version officielle, qui prétend que Madame Michu est un être quasi imaginaire inventé par un publicitaire. Mais voilà, Claude Marty fait une erreur en donnant sa référence à l'opérette Les petites Michu, en omettant étrangement de dire quel rôle social, celui de remettre et conserver chacun à sa place, la famille Michu y joue. Voire, il occulte ce rôle, il le neutralise. C'est un aveu inconscient qu'il est, en bon publicitaire, en train de nous manipuler sur ce dossier. Je suis en effet désormais convaincu que cette manœuvre de Claude Marty a été commanditée par les Michu eux-mêmes. Claude Marty est un publicitaire, et donc un mercenaire, ne l'oublions pas. Son job est de vendre n'importe quoi. Les Michu ont donc, depuis les années 60, réussi leur coup en embauchant ce Claude Marty. Ils passent désormais pour des Français moyens, ordinaires, inoffensifs. Très vite d'ailleurs, cela a pris puisque on retrouve chez Aragon, dans Aurélian, en 1964, une description d'un monsieur Michu. C'était un homme de 50 et des années, encore vert, excessivement poilu, de taille moyenne, avec un nez tout crevassé, une moustache grise tombante. Voilà, les Michu se sont fait passer pour n'importe qui, ça a pris, la couverture que leur a créée Claude Marty est désormais parfaite, ils peuvent passer à la suite de leur plan diabolique. Dès lors qu'elle est passée pour banale, la famille Michu peut agir d'autant mieux dans l'ombre. Et Madame Michu, forte de ses talents de communicatrice, peut et va agir sur le monde. Elle passe pour un personnage populaire, un parler vrai. Falote et pleine de bon sens, Madame Michu s'impose alors en maître étalon de la prétendue lisibilité dans le journalisme français. C'est la fameuse Mercière de Saint-Léon pour messieurs Desgroupes et Lazareff, les pionniers du petit écran, ou encore le fameux pharmacien de Carpentras, variante de la veuve de Carpentras, qui incarne le client lambda chez les banquiers, pour le fondateur de l'Express, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Les journalistes, complice conscient ou non, aide Madame Michu à se dédiaboliser, et on fait de plus en plus référence à elle. Elle devient ainsi plus tard l'utilisateur lambda en informatique, en ergonomie, en design. En vérité, l'emprise insidieuse de Madame Michu s'étend. Bientôt, Madame Michu préconise tout et n'importe quoi pour les produits, les tendances, la vente, le packaging, les programmes télé. Parvenue à se faire passer pour une ménagère de moins de 50 ans, Madame Michu serait ordinaire, un peu bête, mais pétrie de bon sens. Et ce serait tout. Mais certainement pas. En 2003, une étude clairvoyante de l'Institut Ipsos dit ceci de Madame Michu, ménagère de moins de 50 ans. Les obligations du monde du travail l'ont amenée à devenir plus souple, plus adaptable, plus autonome. Elle est aujourd'hui plus éduquée et a appris à manipuler les symboles et les codes du monde moderne. Au-delà de ses expertises modernes, Madame Michu s'est recentrée, repliée sur des valeurs traditionnelles. En vérité, car on le sait donc maintenant, Madame Michu tire les ficelles de notre société marchande et médiatique. Et elles ne sont pas belles, ces ficelles. Aujourd'hui devenue influenceuse, Madame Michu fait trembler les publicitaires et les gens de commerce. Elle est devenue une cible marketing mouvante, qui n'en fait qu'à sa tête et bien sûr à son propre profit.
Alors par contre, se pose une question, mais que devient l'avenir de Madame Michu? Vous vous souvenez de Madame Michu, la ménagère de moins de 50 ans, qui avait une capacité de recommander en fait des tupperwares, enfin des achats à ses copines, pour savoir ce que devient Madame Michu, j'aurai le plaisir d'appeler pour son exposé. Madame Michu n'est plus si Michu que ça.
Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de Madame Michu, qui a été invitée par son magasin Carrefour Hasbrouckien. En compagnie de 10 autres personnes, des clientes principalement, elle était invitée à découvrir les coulisses de la boulangerie. Elle était accueillie par le directeur du magasin en personne. À son arrivée, elle a été applaudie par l'ensemble des collaborateurs de l'enseigne. Des caissières, Vagneux, le maître sushi, Sandy,
en fait,
l'épicière de
fait, elle a un talent dans le furtif. Et comme on l'a vu, ce n'est pas né de rien, ce n'est pas pour rien. Ces manœuvres crépusculaires, cette duplicité habile dans la manipulation des médias et du marché, auraient pu suffire à Madame Michu. Mais sa famille ne s'est pas mobilisée au fil des siècles pour qu'à 107 ans, si je me dis que Madame Michu en avait 49 en 62, une des dernières Madame Michu à 107 ans aujourd'hui, si elle est influenceuse, ce ne peut être que seulement pour recommander des compléments alimentaires protéinés et des protections urinaires. Bref, la famille n'aurait pas fait tout ça pour ça, ce n'est pas possible. Elle ne pouvait pas en rester là. La preuve. Madame Michu est réapparue plus tard, ailleurs, en politique. Et on n'est pas étonné, tout se tient, tout est cohérent dans cette volonté d'emprise sur nos existences. En 2012, Madame Michu ouvre des comptes Twitter, bien marqués politiquement à droite lors de la campagne. Le voilà, le retour du funeste dessein de Madame Michu, défendre la classe dominante. Les fameuses valeurs traditionnelles. Le succès du compte Twitter de Madame Michu est immédiat et important. Devant l'écho rencontré, Madame Michu s'enhardit avec un blog ouvert en avril 2012, puis une page Facebook le mois suivant. Ses tweets nous en apprennent beaucoup. Madame Michu serait une Française moyenne, de droite, néo-conservatrice militante plutôt rurale, passionnée de politique et qui ne tourne jamais sa langue dans sa bouche avant de l'ouvrir, mais fait plutôt confiance à son bon sens. En 2012, elle est même retweetée par Nicolas Sarkozy, et dans la foulée, toute la famille Michu ouvre des comptes Twitter. Le mari, Alfred Michu, le petit-fils, petit Jules, la petite cousine, Pauline Michu, et même le fidèle chien, Ursule Michu. La boucle est bouclée. N'allez plus croire que Madame Michu n'existe pas. On l'a vu, il y a un passé, une famille, une hérédité, un atavisme. Il y a une certaine vision du monde, un positionnement politique radical, une ambition. Madame Michu n'est pas que la voisine un peu conne. Madame Michu n'est pas votre amie. Madame Michu est le fruit d'une volonté de domination qui remonte à plusieurs siècles en arrière. La mémoire du grand Michu, l'ancêtre bafoué de 1870, défenseur des affamés, est loin. Des générations plus tard, Madame Michu est du côté du capital, de l'ordre, de l'autorité, des classes dominantes. C'est leur bras armé et sa vengeance se veut terrible. Je me suis aperçu lors de mon enquête de terrain sur Google que les apparitions de Madame Michu, en gros, depuis 2016, ont commencé bizarrement à disparaître. Pourquoi cette discrétion revenue? Que se passe-t-il? Pourquoi les jeunes générations n'en entendent plus parler, ne la connaissent pas ou peu? En somme, que dissimule cette dissimulation? Nous sommes sans doute à la veille de la dernière étape du vaste projet de Madame Michu. Quelque chose se prépare, ou plutôt Madame Michu et ses sbires, ses affidés, ses hommes de main, sa mafia, ses féaux, préparent quelque chose d'ampleur. Disons-le clairement, il s'agit sans aucun doute d'une terrible révolution conservatrice, d'un retour aux temps anciens d'une société dominatrice et féodale, un asservissement. Mon enquête n'est pas terminée. J'ignore où se trouve en ce moment dans sa folie de pouvoir Madame Michu. Je pense qu'il y a des moyens de rester vigilant à son propos. Il faut surveiller son réseau. Je me suis dit en effet qu'aujourd'hui, tout est réseau. Que les pires manipulations, intrigues, rébellions ou prises de pouvoir se fomentent via les réseaux. On l'a vu avec les dérives de Facebook et Donald Trump avec le réseau de Twitter. Alors j'ai cherché quel pouvait être le réseau de Madame Michu. Quels pouvaient être ses correspondants à travers le monde qui agissaient avec elle dans l'ombre pour on ne sait quel redoutable et néfaste futur projet. C'est sans doute en fouillant là, dans les réseaux, qu'on va pouvoir découvrir ce qui se trame maintenant et où et quand la machine infernale va se mettre en marche. Et j'ai trouvé des noms. Je vous les livre ici, c'est mon devoir de lanceur d'alerte. Il faut vous méfier, il faut vous préparer. Si vous repérez les personnes que j'ai pour l'instant identifiées, n'hésitez pas à me les signaler, il y a sans doute urgence. Voici la toile de la veuve noire, voici les complices, les membres du réseau dormant de Madame Michu. En France, il s'agit de Monsieur Tartampion, Monsieur Tout-le-Monde, Monsieur et Madame Intel. En Belgique, Monsieur Dupont. En Suisse, Monsieur Duchemol et Madame Pahude. En Afrique, une certaine Madame Koulibaly. Au Canada, Messieurs Tijo, Joe Blow, John Smith. En Grande-Bretagne, Joe Bloggs, qui semble-t-il demeurerait chez Fred. Aux États-Unis, j'ai nommé Average Joe et Average Jane, Joe Public, John et Jane Doe, et les enfants Precious et Baby Doe. Il y a Monsieur Joe Sipak et Jane Winecooler. John et Jane Q Taxpayer, Anne Iwan, Joe Blow, un certain Joe the Plumber, Joe Schmo, G Random User, Madame Mary Mayor, Richard Rowe, Monsieur Joe Ordinary. Tel est le réseau maléfique de Madame Michu, du moins une partie pour l'instant identifiée. Il y en a nombre d'autres, cela ne fait aucun doute. Ils ou elles sont implantés dans chaque pays. Ils ou elles sont légions. Et croyez-moi, ils ou elles ne viennent pas en paix. Je vous en supplie. Quand vous évoquerez Madame Michu, soyez désormais très prudent. Lorsqu'on vous parlera de Madame Michu, vous saurez à qui et à quoi vous aurez bientôt affaire. Vous savez maintenant vraiment, dans ces simples mots de Madame Michu, de qui on parle et de quoi on parle.
J'en sais rien, moi.